France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Même si les autorités françaises n'ont pas officiellement confirmé sa mort, l'identification étant toujours en cours, il semble bien que Fabien Klein, ce djihadiste français qui, au nom de Daesh, avait revendiqué les attentats du 13 novembre à Paris, a été tué mercredi, probablement par un tir de drone américain dans ce qui constitue le dernier réduit de l'organisation État islamique en Syrie.
Paris et Berlin restent divisés sur l'ouverture de négociations en vue d'un accord commercial limité avec les États-Unis.
Oui, Washington, vous le savez, menace toujours de taxer les automobiles européennes. Les ministres européens du commerce se retrouvent aujourd'hui à Bucarest pour une première discussion politique sur le sujet. Le Sénégal achève aujourd'hui 3 semaines de campagne pour l'élection présidentielle dont le sortant Macky Sall espère pouvoir se proclamer vainqueur dès dimanche, autrement dit dès le soir du premier tour.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, la France qui va livrer 6 embarcations rapides à la marine libyenne pour lutter contre l'immigration clandestine.
Annonce faite hier par le ministère des Armées, ce alors que de très nombreuses ONG dénoncent les conditions de détention des migrants à Tripoli.
Le bras de fer entre le gouvernement et le Sénat se poursuit.
Oui, hier, Édouard Philippe, à l'unisson de la majorité, a fustigé à son tour les conclusions de l'enquête sur l'affaire Benalla, dénonçant un non-respect de la séparation des pouvoirs. Enfin, l'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Pierre Larrouturou, porte-parole du pacte finance-climat destiné à créer une banque européenne pour financer la transition écologique. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avant la cérémonie des Césars, ce soir, nous allons parler cinéma, une sorte de bilan et perspective sur cette année 2018. Qui a montré un cinéma français plutôt à la fête, mais qui cache quand même tant bien que mal des inégalités qui continuent à se creuser dans ce secteur aussi.
Merci et à tout à l'heure. Après avoir brutalement annoncé, c'était fin décembre, un retrait complet et rapide des troupes américaines de Syrie, provoquant non seulement la stupeur de ses alliés européens, mais aussi le désarroi de certains élus de son propre camp, Donald Trump a prévenu hier que 200 soldats resteront finalement stationnés dans le pays pour un certain temps. La Maison-Blanche n'a pas donné davantage de précisions. Tout juste, sait-on que cette annonce intervient après un échange téléphonique entre le président américain et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Alors, les États-Unis entendent-ils prévenir tout conflit entre la Turquie et les forces kurdes, à moins que le locataire de la Maison-Blanche ne se soit rendu aux arguments de la chancelière allemande, laquelle estimait pas plus tard que la semaine dernière qu'un retrait total risquait de renforcer l'influence en Syrie de la Russie et surtout de l'Iran, l'ennemi juré de Washington. Mais l'on pourrait tout aussi bien avancer d'autres hypothèses. Tout d'abord, l'attentat à la voiture piégée qui a tué 20 personnes hier dans l'est de la Syrie illustre la capacité que conservent aujourd'hui les djihadistes à frapper en dépit de la future victoire annoncée sur les jusqu'au boutistes du califat. Enfin, peut-être les États-Unis jugent-ils indispensable d'appuyer les forces semi-autonomes kurdes pour empêcher qu'elles ne relâchent faute de soutien leurs prisonniers issus des rangs de Daesh. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors cette question justement des djihadistes étrangers en Syrie est effectivement un véritable casse-tête pour les Occidentaux qui globalement rechignent à les reprendre. Est-ce là une possible raison qui aurait pu conduire à la coalition à lancer mercredi une frappe ciblée sur l'ultime bastion de Daesh visant donc les deux frères Klein? Toujours est-il que Fabien Klein aurait donc été tué par un tir de drone américain et que son frère cadet Jean-Michel Klein aurait lui été blessé. Que sait-on aujourd'hui de cette opération?
Alors les services savaient depuis un moment que les frères Klein étaient dans cette région. Et cette opération en tant que telle a pris plusieurs jours, au moins 4 jours consacrés aux renseignements tous azimuts, que ce soit à l'aide d'une surveillance aérienne, téléphonique, avec la captation d'échanges, voire de conversations. Et puis également, si la situation le permettait, d'informations données, soit par des soldats, soit par des habitants, ou encore des civils qui ont fui ce dernier bastion de l'organisation islamique. Une fois tous ces renseignements recoupés, la frappe a pu être déclenchée au terme d'une ultime vérification qui, dans le cas présent, a pris encore plusieurs heures. Il semble que les djihadistes se soient réfugiés dans un bâtiment de Baghouz sans en bouger. C'est ce qui aurait permis l'opération avec un drone armé américain. Si les autorités attendent encore une vérification formelle sur l'identité des deux frères, comme l'a rappelé hier la ministre des Armées Florence Parly, les moyens technologiques sont aujourd'hui particulièrement performants. Ils donnent des images extrêmement précises. Un test ADN pourrait aussi être réalisé si les conditions le permettent. Enfin, dans ces cas-là, Thomas, les services surveillent les conversations des proches des djihadistes pour savoir s'ils ont des nouvelles et l'annonce du décès. Quant au frère de Fabien Klein, Jean-Michel, donné grièvement blessé, là encore, il s'agira de pouvoir accéder à lui sans être entravé par les combats dans cette poche de résistance d'1 km².
Merci Nathalie Hernandez. Alors la question aujourd'hui se pose donc de savoir si le risque de voir s'échapper les frères Klein aurait pu justifier l'opération ciblée menée mercredi. Florence Turm a posé la question à Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme.
C'est une option qu'on n'écarte jamais, au contraire, parce qu'on a des cibles, des individus qui sont importants dans l'hiérarchie d'organisations terroristes et qu'on choisit de neutraliser, parce qu'effectivement, leur disparition, elle est susceptible de désorganiser un groupe, ou elle est en tout cas susceptible, à court terme au moins, d'affaiblir ce groupe. Et c'est exactement ce qu'on fait. On l'a fait avant en Afghanistan, on l'a fait en Irak, après l'invasion américaine et l'arrivée de djihadistes Zarqawi notamment. Donc on l'a fait au Yémen, les Américains l'ont fait au Yémen, bien sûr, pour éliminer progressivement les cadres de l'organisation ACPA. Ça se fait très régulièrement. Puis la France l'a fait, bien sûr, au Sahel aussi, hein, lorsqu'elle en a eu l'occasion.
Est-ce qu'il faut mettre aussi cette opération en regard avec l'épineuse question du retour des djihadistes français en France ?
C'est certain. C'est une question qui va se poser maintenant à relativement court terme, puisque le dernier bastion est en train de tomber, bastion de Lehi. Il est évident que les conditions dans lesquelles ces individus vont être détenus sur zone n'est pas satisfaisant, ne garantit pas la sécurité de leur maintien sur place. Et donc il y a un risque qui est très grand de dispersion de ces djihadistes. Or, l'expérience nous apprend que la dispersion des djihadistes, et on le sait de l'Afghanistan par exemple, cette dispersion est conduite non pas à la dilution de la menace, mais à la diffusion de la menace. Donc on a vu Al-Qaïda changer de nature, justement, après les frappes massives américaines sur son sanctuaire en Afghanistan. Al-Qaïda s'est dispersé dans le monde entier et a constitué des foyers de menaces un peu partout. Le risque, il est là, et il est surtout que ces individus ne renonceront jamais, sont déterminés. Je rappelle quand même que Fabien Klein, lorsqu'il était encore à Agin, donc dans un des derniers bastions d'État islamique au mois de décembre, n'a pas hésité à nouveau appeler à commettre des attentats sur le sol français. Donc ce sont des individus qui ne renoncent pas, ils ne renonceront pas plus en Syrie qu'ailleurs dans le monde.
Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, il répondait à Florence Turm. Le président américain Donald Trump s'entretiendra aujourd'hui à la Maison Blanche avec le négociateur en chef de Pékin sur le commerce, une semaine avant la date butoir fixée par l'administration de Washington. L'objectif reste toujours le même, mettre fin au conflit qui oppose les deux premières puissances économiques de la planète. Dans le même temps, les Européens, eux, débattront aujourd'hui à Bucarest de l'ouverture des négociations sur un accord commercial limité avec les États-Unis, afin d'échapper aux douloureuses taxes que Donald Trump menace à nouveau d'imposer sur leurs automobiles. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors le problème ne concerne pas seulement en réalité le bras de fer entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, puisqu'au sein même de l'Union européenne, des divergences existent, et en particulier entre Berlin et Paris. Quand l'Allemagne veut aller vite et à tout prix éviter des taxes qui seraient désastreuses sur un secteur vital pour son économie, la France craint pour sa part la résurgence d'un sujet aussi sensible qu'un accord de libre-échange avec Washington en pleine crise des Gilets jaunes et à 3 mois qui plus est des élections européennes.
C'est vrai que les chances d'avancer rapide sur ces éventuelles négociations commerciales avec les États-Unis devraient pas se produire aujourd'hui lors de la réunion informelle des ministres du Commerce à Bucarest. La probabilité est forte que cette réunion voit surtout se dessiner entre les 28 d'importantes lignes de fracture. On peut effectivement dire que la France temporise en affirmant que c'est qu'une première réunion politique, qu'il faudra écouter attentivement l'opinion des parlementaires européens qui doivent voter sur la question le mois prochain. Bref, tous les arguments sont bons pour tenter de tuer dans l'œuf toute précipitation sur ce sujet, effectivement politiquement sensible à 3 mois des élections européennes. Mais la France est loin d'être seule. L'Espagne est sur une ligne politique similaire. C'est aussi le cas de la Belgique, par exemple, qui se prépare à des législatives le même jour que les européennes et où la classe politique a été très échaudée par la contestation de l'accord de libre-échange avec le Canada. En face, il y a la commissaire au commerce qui espère que les 28 vont lui octroyer, dès le vote du Parlement européen en mars, un mandat de négociation. Elle est évidemment poussée par l'Allemagne, très inquiète, vous l'avez dit, des menaces réitérées de Donald Trump de surtaxer les automobiles. Le président des États-Unis a sous le coup d'un rapport tenu confidentiel, mais dont il se dit qu'il pointe des risques pour l'industrie américaine si la situation actuelle devait durer. Mais la menace n'est pas acceptable pour les Européens qui ont toujours dit ne pas vouloir négocier avec un pistolet sur la tempe.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. À 2 jours de la date annoncée par l'opposant Juan Guaido pour l'entrée de l'aide humanitaire au Venezuela, le président élu Nicolas Maduro a annoncé hier la fermeture totale de la frontière terrestre du pays avec le Brésil et menace à présent de faire de même avec la Colombie. Enfin, comme un symbole du bras de fer qui se joue donc entre les deux hommes, 2 concerts, l'un pour demander l'acheminement de l'aide et l'autre pour la refuser, auront lieu aujourd'hui à quelques centaines de mètres de distance de part et d'autre d'un pont qui relie Syrie, la Colombie et le Venezuela. Après le report surprise d'une semaine des scrutins présidentiels et législatifs au Nigeria, au risque d'attiser les tensions dans cette course serrée entre le président sortant et son principal rival, les élections générales auront bien lieu demain. Rappelons que le Nigeria est aujourd'hui le pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi la première économie et le premier exportateur de pétrole du continent. De quoi resituer donc l'enjeu de taille que représente ce scrutin. Au Sénégal, l'élection présidentielle aura lieu, elle, dimanche. Au total, 5 candidats sont en lice, le président sortant Macky Sall, et face à lui, 4 adversaires seulement, ou plutôt 4 rescapés du nouveau système de parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé tous les rivaux de poids de l'actuel chef de l'État. D'où une concurrence, disons, inhabituellement dégarnie dans un pays, le Sénégal, pourtant avide de débats démocratiques. Alors hier, à la veille de la fin officielle de la campagne, de jeunes citoyens ont pu tout de même questionner les candidats de l'opposition. Il faut dire qu'avec 60% de la population âgée de moins de 20 ans, la jeunesse est un électorat déterminant. C'est un reportage à Dakar signé William Delesseux.
Devant la scène, chacun prend le micro pour interpeller les candidats. Autant d'étudiants, de jeunes Sénégalais qui posent des questions précises à propos de leurs attentes, de leurs préoccupations. Parmi les jeunes, Abdoulaye Diallo, venu dans le public pour évaluer les programmes des candidats. Il affirme qu'il votera pour Ousmane Sonko.
Je me suis décidé donc à 100% parce que ces votes, donc c'est crucial et c'est très important pour la jeunesse sénégalaise. Ce régime n'arrive pas donc, à satisfaire nos besoins, donc à nous trouver de l'emploi, des emplois. Ces élections reposent sur la jeunesse, ça je le sais. Et Ousmane Sonko est suivi par la jeunesse.
Ousmane Sonko, un des candidats qui se définit anti-système. Le rendez-vous a été organisé par le mouvement citoyen Yann Amar. Un de ses leaders, Fadel Barrow, a appelé l'initiative la part du peuple.
Parce que nous avons voulu opposer le paradigme politique électoral à un paradigme citoyen, faire en sorte que les jeunes comprennent que l'élection c'est aussi une affaire de citoyenneté.
Le rappeur Tiat a modéré les échanges sur la scène. Il faut pour lui que les jeunes, souvent indécis, s'intéressent au scrutin.
On encourage le vote des jeunes, on les encourage à aller voter. Parce que si on atteint les 70% de votants, il y aura forcément un deuxième tour. Et il n'est pas question que ces élections-là se finissent au premier tour. C'est pas possible. Les jeunes, allez voter massivement. 70% de votants, nous aurons un deuxième tour forcément. Et c'est important.
Pour son second mandat, le président Macky Sall compte être réélu dès le premier tour. Les candidats de l'opposition espèrent eux aussi une mobilisation des jeunes. Et ce, afin de créer les conditions d'un second tour, seule possibilité afin d'espérer déstabiliser Macky Sall ce dimanche.
Le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier, n'exclut pas un report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE avant de préciser que c'est aux dirigeants européens d'en décider. Michel Barnier qui demande également aux Britanniques de prendre leurs responsabilités. Alors hier, Londres et Bruxelles semblent s'être rapprochés d'un possible compromis juridique. Le ministre britannique des Finances a lui-même montré plutôt optimiste en disant que les députés pourraient avoir l'occasion dès la semaine prochaine de voter sur un texte révisé. Sauf que peu de temps après sa déclaration, une source au sein du gouvernement britannique a aussitôt semblé écarter la probabilité d'un accord dans les prochains jours. Confirmant une information du journal Le Monde, le ministère des Armées a annoncé hier que la France allait bien livrer 6 embarcations rapides à la marine libyenne, et ce pour lutter contre l'immigration clandestine. Thibault Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Alors cette initiative est non seulement sans précédent s'agissant des autorités françaises, puisque jusqu'à présent l'Italie était le seul État européen à équiper les gardes-côtes de Tripoli, mais elle ne devrait pas manquer par ailleurs de nourrir la controverse en raison des conditions de détention des migrants dans les centres de rétention libyens.
Oui, on parle, Thomas, de 6 bateaux semi-rigides de 12 mètres, des sortes de Zodiac, mais de fabrication française. L'entreprise Silinger doit les livrer à la marine entre mai et novembre. Ils seront ensuite cédés à la Libye pour permettre aux gardes-côtes de débarquer plus facilement les migrants interceptés en mer. Et vous l'avez dit, c'est inédit puisque jamais la France n'a coopéré aussi étroitement avec la Libye. Fabienne Lassalle est la directrice adjointe de SOS Méditerranée, l'ONG qui a financé et affrété jusqu'en décembre dernier le bateau humanitaire Aquarius.
C'est assez incompréhensible parce qu'on ne peut pas dire d'une part que par souci d'humanité, il ne faut pas laisser mourir des personnes en mer et avoir le cynisme de valider et d'externaliser ce sauvetage pour les ramener dans l'enfer que ces personnes cherchent à fuir. On bafoue le droit maritime, c'est ça qui est le plus inquiétant. Le droit maritime est très clair sur le sujet et les conventions de sauvetage le sont également. On secourt pour ramener dans un lieu sûr et là on est en train de valider et de financer des solutions qui sont en contravention totale avec le droit maritime. Et c'est ça qui est insupportable.
La France apporte donc sa modeste contribution à la lutte contre l'immigration illégale. Modeste, puisque l'Italie reste le partenaire privilégié de la Libye. Rome a en effet livré depuis 2 ans 16 patrouilleurs, des navires donc plus conséquents, avec une certaine efficacité, entre guillemets. Les tentatives de traversée ont chuté de 80% entre 2017 et 2018. Mais revers de la médaille, ces traversées sont beaucoup plus dangereuses. La Méditerranée est encore cette année la voie maritime la plus meurtrière du monde.
Merci Thibault Lefèvre. Depuis la publication par le Sénat d'un rapport accablant la présidence de la République pour sa gestion du scandale autour d'Alexandre Benalla, l'exécutif mène la riposte à bon train, une contre-attaque massive couronnée hier par les récriminations du Premier ministre en personne, Édouard Philippe, lequel, à l'unisson de la majorité, non seulement fustige les conclusions de ce rapport, pour le moins embarrassant pour l'exécutif, mais dénonce aussi un non-respect de la séparation des pouvoirs. Alors, outre qu'il y a comme une forme de contradiction de la part du gouvernement dans le fait d'arguer de la séparation des pouvoirs pour nier la fonction de contrôle exercée par une commission parlementaire, qu'en est-il si l'on s'en tient au texte de loi ? Sur cette question de la supposée atteinte à la séparation des pouvoirs, Stéphane Robert a sollicité l'analyse de Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'Université de Lille et auteur d'un blog « La Constitution décodée ».
Le Parlement est parfaitement dans son rôle lorsqu'il contrôle le gouvernement, bien sûr, mais l'ensemble de l'édifice administratif. L'article 24 de la Constitution lui confie la tâche de contrôler le gouvernement. Alors certains disent l'Élysée, ce n'est pas le gouvernement. L'administration de l'Élysée, par exemple la sécurité du président de la République, relève du ministère de l'Intérieur. Et donc c'est bien le gouvernement. Le président de la République, lui, effectivement, bénéficie d'une immunité. Il ne pourrait pas être convoqué devant une commission d'enquête. Mais la présidence de la République est une institution politique qui s'appuie sur une administration qui peut faire l'objet d'un contrôle.
Pourquoi, à votre avis, le Premier ministre dénonce une prise de position politique de la part du Sénat et de la commission d'enquête sénatoriale ?
Pourquoi le fait-il ? Mais parce qu'on sent une très grande fébrilité de la part du pouvoir exécutif sur ce point-là. Visiblement, ils sont déstabilisés par ce qu'a pointé du doigt le Sénat, et agissant, répondant ainsi, ils ne répondent pas du tout sur le fond. Le Premier ministre essaye de noyer ce rapport sans intervenir sur le fond. On pourrait même ironiquement dire qu'il est déçu, mais on comprend pourquoi est-ce qu'il est déçu. Le rapport pointe du doigt le dysfonctionnement de la maison élyséenne, dénonce des éventuels faux témoignages de la part des plus hauts personnage de cette administration. Moi, à sa place, je serais extrêmement déçu d'apprendre tout cela aussi.
Et toujours est-il qu'en aucun cas, selon vous, le Sénat n'a empiété sur ses prérogatives.
À mon sens, absolument pas. Il a mis en œuvre le principe de séparation des pouvoirs, le conduisant à contrôler les autres pouvoirs, à commencer par le pouvoir exécutif.
Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, auteur d'un blog « La Constitution décodée ». Il répondait à Stéphane Robert. L'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Pierre Larouturou, porte-parole du pacte finance-climat, ce projet de traité européen en faveur de la création d'une banque européenne pour financer la transition écologique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Alors ce projet que vous avez mis au point avec le climatologue Jean Jouzel vise donc deux idées majeures. D'une part, créer un budget européen du climat et d'autre part, créer une banque européenne pour financer cette transition écologique. Une noble cause donc, mais où comptez-vous trouver l'argent ?
Eh bien, bonne nouvelle, l'argent existe, il suffit de l'utiliser autrement. En fait, beaucoup de gens ne le savent pas, parce que l'économie, parfois, ça fait un peu peur, mais la Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards d'euros depuis 3 ans. Je répète, la Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards d'euros, on appelait ça la planche à billets, maintenant on appelle ça le quantitative easing, et cet argent a été donné aux banques pour, entre guillemets, relancer la croissance. Mais le bilan qu'on fait, a posteriori, c'est qu'il y a seulement 11% de l'argent qui est allé dans l'économie réelle et 89% qui va à la spéculation. Et encore la semaine dernière, Christine Lagarde, la patronne du FMI, disait « Attention, on risque d'aller vers une crise plus grave, plus rapide qu'en 2008 ». Donc est-ce qu'on reste... Et de l'autre côté, Nicolas Hulot démissionne en disant « J'espérais 7 milliards pour isoler les bâtiments, commençant par les plus précaires. J'espérais 5 milliards pour un plan hydrogène. J'ai pas l'argent ». Donc honnêtement, comme citoyen, avant d'être un économiste, je suis un citoyen, je trouve assez troublant qu'on nous dise « Il y a eu 2600 milliards de créés et comme ministre de l'Environnement en France ou en Allemagne, n'a pas les moyens d'agir pour le climat ». Alors donc, juste si on mettait la moitié de cet argent, tous les mois, en gros, la Banque Centrale a sur la table de nouveau entre 50 et 80 milliards par mois. Juste si on mettait la moitié de cet argent au lieu d'aller à la spéculation pour créer des emplois, pour isoler les bâtiments, faire des transports en commun, aider l'agriculture à se transformer, on pourrait gagner la bataille du climat. Il est encore possible que l'Europe montre qu'un autre modèle qui est à notre portée.
Alors concernant la création d'un budget européen de 100 milliards d'euros consacré à la transition donc climatique, comment le faire sans taxer les Européens ?
Mais pourquoi un budget ? D'abord, c'est très important. Ce qu'on vient d'entendre sur les réfugiés est quand même dramatique. Et on va vers une crise monstrueuse. C'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Quand l'ONU nous dit qu'on aura 140 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans qui viennent, on va vers un drame. Honnêtement, ce qu'on vient d'entendre sur les réfugiés, ça fait peur. Et si l'Afrique se disloque à cause des problèmes climatiques, ce sera encore pire. Donc, on veut un vrai plan Marshall pour l'Afrique, pour créer des emplois à court terme et pour éviter que l'Afrique se disloque, que les gens puissent vivre bien. On veut aussi que chacun de nous, si on doit faire des travaux d'isolation, vous comme moi, si on doit isoler l'appartement où on habite, on voudrait que la moitié de la facture soit payée. Et du coup, on pourrait dire dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés parce que chacun de nous recevrait un chèque qui correspond à la moitié. Donc voilà pourquoi on veut un budget. Comment trouver 100 milliards d'euros sans avoir des gilets jaunes partout ? Eh bien en disant qu'au lieu de le faire payer par monsieur et madame tout le monde, en particulier les 30% de Français qui sont dans le rouge tous les mois, qui n'ont pas un sou, on fait remarquer que les dividendes ont augmenté de 15% l'an dernier en Europe. Et que à cause de la concurrence fiscale intra-européenne, l'impôt sur les bénéfices a été divisé par deux en Europe en moyenne. Quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. 45%. Et puis quand l'Angleterre est rentrée, on a commencé, chacun de nous baisse son impôt parce que le voisin fait pareil. Et aujourd'hui, on est tombé à 19%. Donc c'est quand même le monde à l'envers. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices. Jamais eu autant de bénéfices non réinvestis. Parce que les bénéfices, c'est une bonne chose si ça retourne dans l'économie. Donc, est-ce qu'on ne peut pas demander un effort de 3%, un petit impôt sur les bénéfices ? On ne touche pas les artisans, on ne touche pas les petites entreprises. On dit que l'Europe créerait un impôt sur les bénéfices qui dépendrait de l'évolution du bilan carbone des entreprises.
Mmh. Alors, revenons un petit peu sur le côté technique. La Banque du Climat serait donc quoi ? Une filiale de la BCE
BEI ? Honnêtement, c'est pas un problème technique. Regardez, quand le mur de Berlin est tombé en 1989, il a suffi de 6 mois pour que Helmut Kohl et François Mitterrand créent une banque en disant il faut aider la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, il faut financer la transition. À l'époque, c'était pas la transition écologique, c'était la transition démocratique des pays qui avaient... Mais en 6 mois, en partant de rien, ils ont créé un outil qui s'appelait la BERD pour financer. Aujourd'hui, on ne part pas de rien. Il y a les 2600 milliards de la BCE. On a des gens de la BEI qui nous ont aidés. Vous avez vu que mardi, on a rendu public le traité. Ça y est, on a rédigé. Des grands juristes nous ont aidés, et y compris des dirigeants des banques européennes à titre personnel nous ont aidés et disent c'est tout à fait faisable. Si Madame Merkel, si Monsieur Macron, si Monsieur Rutte décident de le mettre sur la table des négociations, dans moins d'un an, on peut avoir ces outils et on va créer des emplois sur tous nos territoires. C'est aussi pour ça qu'on a tous les maires ruraux de France avec nous, parce qu'on va créer des emplois pas seulement à Paris ou à Grenoble et dans les grandes villes, mais dans tous les villages de France, il y aura de l'argent pour dire on isole les bâtiments publics et privés, on développe le travail à distance, on développe les énergies renouvelables. On a parmi nos soutiens l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, qui dit que rien qu'en France, on peut créer entre 800 000 et 900 000 emplois. Donc si on peut en même temps sauver le climat, entre guillemets, et créer des emplois et permettre à un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique, il faut qu'on avance. Et c'est trop facile de dire que Trump est un imbécile, c'est trop facile de se moquer de Bolsonaro si nous, l'Europe, on ne fait rien.
Donc bon, vous le disiez, vous avez de nombreux soutiens, mais il faut quand même une volonté politique. Donc les soutiens peuvent aider à un petit peu faire fléchir Merkel et Macron, comme vous dites. Donc de nombreuses personnalités, on en compte plus de 600, mais il y a quand même du monde. Ça va de Alain Juppé, Laurent Fabius, Nicolas Hulot hein, en France. Mais on a aussi les syndicats et on a le pape François également. Vous dites, vous êtes mis en mode commando. Donc c'est quoi en l'assaut ? C'est le 21 mars prochain ?
Notre objectif à court terme, c'est qu'il y a un grand conseil européen qui est le 21 mars et le 22 mars. En principe, Angela Merkel passe son temps à dire que l'Europe va se disloquer, l'Europe va mourir si elle n'a pas un nouveau projet. En principe, c'était le Conseil européen du 13-14 décembre qui devait décider de l'avenir de l'Europe. À cause du Brexit, ils étaient pris par d'autres choses. Maintenant, on demande que ce soit le 21 mars et le 22 mars. Et sinon, on continuera, on ne va pas les lâcher. J'étais hier à Bruxelles. C'est magnifique de voir les mouvements d'étudiants qui ont mis plein de monde dans la rue. On n'a jamais vu des manifs aussi nombreuses, aussi joyeuses, sans un gramme de violence. L'autre jour, on était 90 000, 90 000 personnes dans la rue. Jamais vu ça en Belgique. Et du coup, tous les partis se réveillent. Et hier, au Parlement fédéral de Belgique, ils ont commencé à rédiger une loi pour demander au Premier ministre de reprendre notre projet et le mettre sur la table des négociations.
Donc comment vous comptez bousculer l'Union européenne ?
Eh bien, il faut qu'un maximum de citoyens s'engagent. Allez sur le site pacteclimat.eu, pacte-climat.eu. Il faut que chacun de nous fasse pression sur ses députés, que les députés fassent pression sur Merkel, sur Macron, sur Rutte. Le mur de Berlin, si on avait attendu les grands chefs et les grands ministres, il serait encore là. Le mur de Berlin, c'est des citoyens qui sont mis en mouvement. Ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 30 000. Et sans une goutte de sang, en quelques semaines, ils ont fait tomber le mur de Berlin. En 2019, il faut que les citoyens décident. L'Europe doit agir pour le climat et pour l'emploi et pour la biodiversité.
Merci Pierre Larouturou, économiste et porte-parole donc du pacte finance-climat, d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Annabelle Grelier. On termine avec un mot de météo, à l'exception de quelques nappes de brouillard. Au nord de la Seine et sur le Grand Est, partout ailleurs, l'après-midi s'annonce ensoleillé avec des températures printanières comprises entre 13 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.